Bien, merci Audrey, en même temps d'avoir respecté le temps de parole. Enfin, là encore, je crois que dans cette intervention, il y a à la fois des éléments intéressants sur l'intérêt d'un travail de nature biographique ou sociobiographique, hein, qui parfois est négligé et qui a du sens. Il y a cet éclaircissement sur la façon dont se construit, dont se fabrique une œuvre. Et puis évidemment, dans ce qui vient d'être dit sur la médiatisation, une tension là encore entre la médiatisation d'un génocide, de faits, et la médiatisation d'une œuvre. Enfin, tout cela étant en interrelation évidemment, mais moins simple qu'il y paraît. Voilà, je crois que nous avons eu trois interventions, des questions qui s'esquissent. C'est vous qui avez la parole maintenant pour un échange qui peut durer un quart d'heure, 20 minutes, si j'en crois ce que François m'a dit, ce que Catherine confirme. Oui, d'accord. Hein, voilà, donc le micro circule, vous n'avez plus qu'à le demander. Alors, il y a une demande de prise de part, il suffit de faire un petit signe et puis on va venir vers vous avec le micro. Voilà, il y a une première, ouais. Une demande ici, une en haut à gauche aussi. Allez, le micro est là, bon d'accord, parfait.
Oui, les propos de... Je m'appelle Nasson, je viens de Kigali. Les propos de Marie-Soleil Frère posent la question du freedom of speech, ou la liberté d'expression, dans ce contexte particulier, qui est en fin de compte encadré par une triple pression, et à savoir essentiellement le regard avertisseur et paternaliste de l'État. Et ensuite, cette culture d'autocensure qui est en somme toute structurelle depuis plusieurs décennies et qui a été alimentée avec une importante force par l'histoire de violence, etc. Et finalement, le poids de l'héritage du génocide en tant que tel, et qui va, je pense, durer. Et je voulais un peu avoir l'opinion de Marie-Soleil Frère et de François Robinet. Quelle est la voie de sortie? On est un pays qui est engagé dans une logique d'autoconstruction dynamique et parfois désespérée. Et c'est important de savoir du point de vue méthodologique et d'approche à long terme, comment on devrait faire, comment on devrait s'y prendre. Est-ce qu'il faut mettre en place des projets de l'éducation du pouvoir public, d'une certaine manière, par les citoyens? Est-ce qu'il faut imaginer et penser les programmes par les médias et par la société civile pour nuancer quelque part cette culture d'autocensure, ou alors, il faut peut-être le dire, arrêter de vous agiter. Et quand on dit chez nous dans notre langue Wiganingendo Yundarataga, celui qui tente d'imiter la marche de l'autre, il finit par boiter maladroitement. Et qu'on se dise, prenons plutôt dans ce contexte particulier, le modèle familial de ce contexte de l'Afrique centrale, qui veut que, pour les enfants, la liberté, c'est magnifique, mais il faut qu'elle soit encadrée. Encadrée par les parents. Et c'est comme ça qu'on a l'espoir d'une famille qui dure et qui fonctionne. Et que le journaliste, sur son modèle familial, le journalisme, sur son... La liberté d'expression essentiellement sur son modèle familial et ce qui convient probablement à ce contexte. J'aimerais avoir l'opinion de Marie-Soleil Frère et de François Robinet. Merci.
Bien, alors si vous voulez répondre, mais d'une façon relativement brève, puisque le temps de débat est limité, ce serait parfait. Donc vous esquissez quelques pistes et puis on passera à une question suivante. Voilà. Marie-Soleil ? La question est facile, hein, donc voilà.
Bon, Qui suis-je? Qui suis-je pour dire la voie à suivre?
Oui, Soleil Frère, hein, c'est un très joli prénom, Soleil quand même. Hein.
Non, moi je crois que voilà, tout le monde tâtonne dans cette affaire. Je crois que même l'État rwandais tâtonne. Je crois que les multiples modifications de la loi, les reconfigurations des institutions le montrent. Les journalistes tâtonnent. On voit bien qu'à la fois, il y a une forte revendication de pouvoir s'exprimer plus librement sur un certain nombre de sujets. Et en même temps, on voit bien les dérives aussi. On voit bien qu'il y a des journaux rwandais qui sont de véritables torchons, excusez-moi pour l'expression, avec des propos, avec des j'ai mentionné tout à l'heure les règlements de compte interpersonnels, les pratiques de corruption, certains papiers aussi qui sont vraiment à la limite en termes d'atteinte aux bonnes mœurs, en fait. Donc, voilà. Et donc, il y a tout ce débat sur le free speech. Et c'est vrai que le thème du dernier dialogue, puisque donc chaque année, il y a ce media dialogue entre le ministère, les autorités publiques et les médias, le thème du dernier media dialogue, c'était « Turning the page on hate speech ». Voilà. Donc, tournons la page du discours de haine et projetons-nous vers l'avant. Et en fait, tous les débats ont tourné, non pas du tout autour de « projetons-nous vers l'avant », mais autour de « qu'est-ce qu'on fait si le hate speech revient ?» et « comment est-ce qu'on fait pour quand même cadenasser l'espace de la liberté d'expression ?» pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive, pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Alors, je n'ai pas parlé de la formation, mais même dans ce domaine de la formation, c'est très ambigu. Donc, on a mis en place, l'État a mis en place cette école de journalisme dès 1996. Donc, c'est vrai que l'école de journalisme a déjà formé maintenant toute une génération de jeunes journalistes rwandais. Mais quand on regarde un peu les cursus de formation, c'est une formation extrêmement théorique où toute une série d'enjeux propres à la situation du paysage médiatique rwandais ne sont pas discutés. Alors oui, on parle des médias de la haine, on parle de la RTLM, on parle de Kangoura en long et en large, mais sur comment devrait se configurer le journalisme aujourd'hui pour être à la fois responsable dans un État qui a quand même connu les dérives médiatiques qu'il a connues, mais pour aussi bénéficier d'une certaine marge de manœuvre, ce débat-là est très, 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 très difficile à mener. Donc, je pense que la réforme de 2013, c'était un peu une manière pour l'autorité publique de renvoyer le débat du côté des journalistes, en disant, voilà, le Media High Council ne va plus s'occuper du monitoring des médias, on ne va plus suivre les contenus, on ne va plus aller épingler les journaux, les radios qui dérivent, c'est l'autorégulation qui va s'en charger. Alors déjà, c'est un peu paradoxal que ce soit la loi, donc l'État, donc l'autorité publique, qui demande aux journalistes de s'autoréguler et donc de mettre en place une structure d'autorégulation. D'habitude, l'autorégulation, elle émane de la profession elle-même et d'une volonté de s'organiser. Donc là, c'est l'État qui a demandé la mise en place de la Rwanda Media Commission, qui en plus est financée par l'État pour les premières années de fonctionnement. Donc voilà, la balle est quelque part du côté des journalistes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que Roura maintenant intervienne pour suspendre la BBC suite à la diffusion de ce reportage montre quand même que c'est compliqué pour l'État de dire les journalistes vont s'auto-réguler et donc nous n'allons plus nous préoccuper des contenus médiatiques. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Un élément de réponse, Nasson, par rapport au rôle peut-être des télévisions étrangères, puisque moi je n'ai pas étudié les médias rwandais. Alors sans revenir sur l'épisode de l'émission de la BBC que je n'ai pas étudié, qui ne fait pas partie de mon corpus, je crois que la télévision française et les hommes de télévision française se retrouvent confrontés à plusieurs défis, mais ça peut être aussi leur richesse et leur fécondité. Le premier défi, c'est d'éviter que l'événement tombe complètement dans l'oubli ou dans l'indifférence. Et c'est un risque qu'on observe. Il y a des moments où on n'a absolument aucun écho ou aucun retour sur cet événement. Le deuxième défi, c'est d'être vigilant quant à tous les discours qui sont soit approximatifs, soit falsificateurs, soit négationnistes, qui sont présents aussi à la télévision française et dans les télévisions étrangères. Et là, je crois qu'il y a un rôle de rigueur et d'expertise que doivent apporter les journalistes, mais aussi les hommes de télévision. Et les animateurs sont parfois des véhicules aussi et des vecteurs de paroles très, très approximatifs. Et voilà, on ne peut que le déplorer. Le troisième défi, c'est la difficulté à inscrire certains événements dans un récit des faits, des événements postérieurs qui sont souvent pour partie des conséquences de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Je pense aux deux guerres du Congo. Hein, souvent, voilà, ça participe d'une guerre de mémoire. Et je m'interroge sur la manière dont les médias, les journalistes et d'autres acteurs pourraient faire en sorte de restituer un récit qui soit un récit moins conflictuel de cette série de faits qui, à mon avis, sont pour partie imbriqués les uns avec les autres, les uns aux autres, pardon. Et puis, le dernier défi, peut-être, c'est continuer à relayer des paroles, et notamment les paroles de rescapés et de Rwandais. C'est vrai que souvent, les médiateurs occidentaux ont une place importante et parfois très, très utile et très féconde. Et de temps à autre, il faut aller chercher un peu en creux la parole, justement, de ceux qui ont vécu les événements. Et peut-être que là, il y a un travail aussi conséquent de la part de la télévision et pas forcément se reposer systématiquement sur les gens de théâtre, sur qui font un gros travail, mais il y a un travail qui... parfois va toucher le grand public, mais parfois ce ne sera pas le cas. Donc la télévision, je crois, doit aussi s'emparer de ce défi. Alors c'est peut-être un vœu pieux, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que c'est important de le dire et que les gens soient conscients. Et il y a des gens qui sont conscients de ça, bien sûr.
La question est vraiment difficile en tant que telle. Quand je ne m'occupe pas de questions liées au témoignage ou à mémoire, je m'occupe un peu de sociologie des professions. Et je pense que là, la question que vous posez, elle renvoie à ce qui est ni plus ni moins qu'une forme d'illusion normative. C'est-à-dire croire qu'effectivement, on peut régler, réglementer, encadrer les professions. C'est très largement faux. C'est un jeu d'interaction qui se joue, et même l'autorégulation est un moyen de légitimation d'un groupe professionnel. En revanche, étant dans le cadre d'un colloque ici, je crois beaucoup plus à une forme de fécondité de l'observation des pratiques. Certes, par le milieu lui-même, mais aussi, et ça je crois que c'est la responsabilité des collègues rwandais, des chercheurs, hein, qui ont des choses à dire sur la manière dont les médias fonctionnent. Et le dialogue entre des chercheurs et des professionnels peut être extrêmement fructueux, hein, parce que ça participerait d'une autoréflexion plus généralisée et qui, à mon sens, peut amener autre chose qu'une régulation ou une normalisation des pratiques qui, de toute façon, est toujours illusoire. Voilà, c'était juste un tout petit commentaire en passant. Alors, une question ici, monsieur. Oui.
Bonjour.
Bonjour.
On assiste dans la scène politique française au retour de Juppé et Sarkozy, sachant que Juppé était ministre des Affaires étrangères et Sarkozy, ministre du budget au moment du génocide au Rwanda. Et si l'un et l'autre devaient être candidats à la présidence en 2017, est-ce que vous pensez que les journalistes vont saisir la balle au bon pour enfin sortir les dossiers de Sarkozy et Juppé concernant le génocide au Rwanda? Est-ce qu'on va enfin savoir quel est le rôle qu'ils ont occupé au moment du génocide? Ou est-ce qu'il faudra attendre qu'il y ait l'équivalent d'un Robert Paxton pour définir le rôle exact de la France au moment du génocide?
Il y a 30 ou 40 ans, en France, il y avait une personne qui avait une grande fortune médiatique qui s'appelait Madame Soleil. Mais là, on n'a que Marie Soleil. Voilà. Et je ne suis pas sûr que l'une réussisse à se substituer à l'autre. Et enfin, bon, c'est pour prévenir la qualité de la réponse, c'est tout.
Non, je pense que la question s'adresse plutôt à...
Là aussi, c'est difficile de répondre... Il y a effectivement un certain nombre de responsables politiques de l'époque qui sont mis en cause avec une documentation qui désormais est plutôt bien connue, même si bien sûr il reste toujours des choses à faire, avec des éléments justement de ce rôle qui ont déjà largement été portés par certains journalistes. Il y en a certains qui seront parmi nous aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants. Après, la question qui se pose, si on parle d'Alain Juppé, la question de sa candidature, est-ce que ça va être moteur pour reparler du Rwanda ou est-ce que ça va faire écran? Et moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça fera écran. Voilà, après...
Moi, je crois que ça repose la question de la mise en agenda, enfin, et de voir effectivement comment, dans l'espace public français, se structure ou non un débat autour de la question. C'est-à-dire que qui le porte, comment, et là, on commencera à avoir des réponses. Le dire de façon prédictive, ça me semble effectivement très, très difficile. En revanche, l'observer, là encore, je pense que la question que vous posez a vraiment du sens. Oui ?
J'ai deux questions.
Ce serait bien peut-être à chaque fois de se présenter.
Raphaël Doridan, pardon. Ouais. J'ai deux questions. La première, c'est sur l'expression « génocide des Tutsis par les Hutus » que j'ai entendue une fois ou l'autre au printemps. Et donc, j'aimerais savoir si les observateurs qu'il y a dans la salle, bon, François Robinet, Marie-Soleil Frère pour la Belgique, est-ce que cette expression, quelle a été sa force, disons, dans les médias? Est-ce qu'on l'a entendu souvent ou peu? J'étais étonné d'entendre ça, parce que pour moi, évidemment, c'est la victoire symbolique des génocidaires. C'est ce qu'ils voulaient, ça. Tous les Hutus ensemble pour tuer tous les Tutsis. Donc quand on dit génocide des Tutsis par les Hutus et pas par les extrémistes Hutus, ça me choque. Donc je voulais savoir un peu dans la salle, là, si, Parce que ça serait quand même 20 ans après qu'on en soit encore à dire ça dans certains médias. Bon, ça serait sérieux. Et la deuxième question, c'est par rapport au travail de Jean Hatzfeld et à la réécriture littéraire. J'ai peu souvent discuté avec des rescapés du génocide, mais ça m'est arrivé un petit peu, mais par rapport à des personnes ici qui ont beaucoup l'habitude de ce travail-là. Mais quand même, c'était des francophones, parce que moi, je ne parle pas le Kinyarwanda. Et le mot « avoisinant », Hatzfeld utilise beaucoup. Moi, je ne l'ai pas entendu dans la bouche des Rwandais. Alors, il y a ici des Rwandais francophones. Donc, j'aurais voulu savoir si c'est simplement parce que j'ai une si petite expérience que je n'ai pas pu être frappé comme Jean Hatzfeld par ce français rwandais, comme il y a un français québécois, un français français, et je n'ai pas, moi, eu l'occasion, ou si ça fait partie de la réécriture littéraire. C'est-à-dire, quelle est la part de la réécriture littéraire par rapport aux témoignages recueillis par Hatzfeld, si on peut dire un peu quelque chose dans la salle.
Bien, merci pour ces questions, portant sur des questions langagières, justement. Donc, Audrey, peut-être, et puis ensuite, on donnera la parole à Marie-Soleil et à François.
D'abord, il faut savoir que tous les témoins donc interviewés par Hatzfeld ne sont pas francophones. Il y a des médiateurs qui sont très importants, ce sont les traducteurs. Donc notamment Innocent Ruliliza, qui est un enseignant donc de Nyamata et qui est aussi président là-bas de l'association des rescapés. Donc il y a souvent des médiateurs comme ça qui ont des rôles très importants. Et notamment, donc, avoisinant, c'est un terme, j'ai eu l'occasion de rencontrer Innocent, qui est très utilisé par Innocent. Alors maintenant, peut-être que des Rwandais dans la salle sauront mieux que moi si ce terme est utilisé au Rwanda, mais en tout cas, Innocent l'utilise de manière très fréquente. Donc c'est la traduction de ce médiateur qu'on voit donc dans cette réécriture, ça c'est certain. Voilà, si pour répondre...
François ?
Non. Pour répondre à la première question, ça dépend à la fois des thématiques qui sont abordées et des formats. C'est-à-dire que sur certains formats comme les journaux télévisés, sur le lancement de certains présentateurs, sur les questionnements qui sont posés par des animateurs ou des hommes de télévision lors de débats, par exemple post-projection d'un documentaire, on observe très souvent une qualification très floue. Enfin, complètement approximatif de l'événement. Alors avec parfois, effectivement, génocide des Tutsis par les Hutus, parfois c'est la tragédie, le génocide rwandais. Enfin, il faudrait vraiment faire un travail sur toutes ces déclinaisons. Mais en tout cas, la qualification des massacres n'est absolument pas nette, manifestement, pour les journalistes ou les animateurs. C'est moins le cas dans les formats longs que j'ai étudiés, comme les documentaires ou les grands reportages, où là, en général, il y a une attention à la qualification, sauf lorsqu'il s'agit justement du thème de ce qui se passe au Kivu, par exemple, où très souvent la grille de lecture ethnique et l'antagonisme censé être ancestral, séculaire, entre Hutu et Tutsi est assez nettement réinvesti. Je pense à un reportage de Patrick Forestier en 2007, me semble-t-il, dans Carnet de voyage, où justement la grille de lecture ethnique qui est véhiculée par les témoignages qu'il récolte, il ne s'en démarque pas en fait dans son commentaire. Donc voilà, après, je n'ai pas de quantification à t'apporter, hein, mais je crois que c'est effectivement une piste de questionnement qui est assez, assez fondamentale.
Mais alors, du côté de la Belgique, les choses se passent comment ?
Alors, du côté de la Belgique, on a le paysage médiatique de la Belgique francophone étant ce qu'il est. On a deux journalistes qui sont un peu spécialistes de la région des Grands Lacs. Donc, c'est Colette Brackmann qui travaille au Soir et Marie-France Croix qui travaille à la Libre Belgique. Et pour le reste, on est en phase d'une quantité de journalistes qui peuvent être amenés à couvrir le Rwanda sans y connaître grand-chose. Alors, on a absolument entendu tout et n'importe quoi pendant cette période de commémoration, puisque quand même des représentants de nos plus hautes autorités belges se sont déplacés à Kigali. Le journal parlé de la RTBF a été fait en direct depuis Kigali la semaine du 7 avril. Mais tout ça s'est fait effectivement dans un flou terminologique le plus complet. D'ailleurs, la RTBF a quand même réussi, la RTBF Radio, pendant les deux premiers jours de la commémoration, à ne parler que de génocide rwandais. Voilà, donc vous pouviez avoir tout un journal parlé où on vous expliquait que les autorités belges étaient allées à la commémoration du génocide rwandais, sans plus d'explications sur qui est qui dans cette affaire. Donc je crois qu'effectivement, on est... Bon, dans notre petite partie d'un pays qui est déjà petit aussi, il n'y a forcément pas beaucoup de journalistes spécialisés et on est confronté en permanence à ce flou terminologique. Alors... Au début, les associations de rescapés ou plusieurs universitaires ont voulu systématiquement écrire à la RTBF, envoyer des mails, etc. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien parce que c'est toujours un autre journaliste qui va être amené à couvrir le lendemain. Et puis on ne parvient pas à faire en sorte que les choses soient définies avec un peu plus de clarté.
D'accord. Alors, une petite précision de la part de François. On prendra encore une question, je crois, et puis on arrêtera. Voilà.
Pour terminer sur cette question, je crois qu'il faut relier ça aussi à la question du rôle de la France. Et j'ai un exemple qui est assez probant dans ce que j'ai pu visionner. Dans l'émission 28 minutes, en fait, d'Elisabeth Quint, à deux reprises, il y a un débat autour du rôle de la France. Alors, la première fois, c'est Laure de Vulpian et Jean Hatzfeld qui sont invités. Et la seconde, bon, plusieurs personnes, dont Gilles Martin-Chauffier, en fait, qui est un des rédacteurs en chef de Paris Match. Et en fait, c'est assez hallucinant, puisque pour dédouaner la France de toute responsabilité ou de tout rôle, donc il réactive l'idée d'une réciprocité des massacres entre Hutus et Tutsis. Il parle d'un deuxième génocide quand les Hutus sont chassés du Congo. Il dit la France ne doit pas toujours plaider coupable. Il y a des coupables de tous les côtés. Et donc, systématiquement, dans son discours, voilà, il cherche à introduire de la confusion en réintroduisant... peut-être des moments en fait, qui ne sont pas suffisamment bien étudiés, sur lesquels il y a des zones d'ombre, mais en jouant aussi sur cette rhétorique, justement, qui est une rhétorique qui vise à faire une sorte d'écran de fumée derrière les faits. Et comme autour de lui, il n'y avait pas vraiment de spécialiste de la question ou du sujet, personne n'a été en mesure de déconstruire ce discours. S'il y avait eu Jean Hatzfeld ou Laure de Vulpian, je pense qu'il aurait été déconstruit. Mais les autres personnes autour de lui n'étant pas du tout spécialistes, bon, elles ont continué à véhiculer d'autres idées assez générales. Et voilà comment se diffusent dans l'espace public aussi des éléments d'approximation qui sont d'autant plus importants, qui sont déjà présents en 1994 au moment de la couverture. C'est-à-dire que du coup, c'est aussi pour ça qu'ils imprègnent autant les consciences, c'est qu'il y a un socle qui est présent dès 1994 et qui permet à ces confusions multiples, même si elles ont été déconstruites à de multiples reprises depuis 20 ans, de continuer à peser sur le débat. Donc à la fois les zones d'ombre et en même temps cette...
Voilà.
Préfiguration
bon.
Des faits.
Moi, je crois que ce sera en quelque sorte le mot de la fin de cette séquence et la transition en même temps vers la table ronde, puisqu'il s'agit bien ici d'interroger le travail d'enquête du journaliste. Donc nous allons le faire dans le cadre de la table ronde que tu vas précisément animer. Voilà, merci aux trois intervenants et continuons. Faut dire deux minutes. Oui, deux minutes de pause, comme ça fait cinq.